Attention, vous êtes arrivés dans les Monts de Demain, une chronique du parc naturel régional pour parler d'urgence écologique et climatique, mais aussi, surtout, de transition, pour imaginer ensemble les Monts de Demain.
L'huile de baleine illumine le monde, puis sert à lubrifier les machines de la révolution industrielle. La chasse débute il y a plus de 1000 ans, mais se développe vraiment et se perfectionne au 19e siècle.
Dans le cadre des rencontres Les Monts de Demain, co-organisées par le Parc Naturel Régional des Monts d'Ardèche, le 2 décembre dernier, le Théâtre de Privas accueillait le spectacle immersif Le Retour de Moby Dick, un récit en musique de l'océanographe François Sarano, basé sur son ouvrage éponyme, ou ce que les cachalots nous enseignent sur les océans et les hommes. On peut d'ailleurs en retrouver la version papier aux éditions Actes Sud, l'occasion pour nous de rencontrer ce passionné qu'est François Sarano. Est-ce qu'il y a, François Sarano, encore trop de capitaines à câbles dans nos océans ?
Heureusement, il n'y a plus de capitaines à câbles. La chasse a été définitivement arrêtée en 1980, même 79 dans l'océan Indien, où nous suivons depuis maintenant plus de 10 ans une famille de cachalots qui nous accueille chaque année, plusieurs semaines, et nous plongeons avec eux jour après jour. Nous avons vu naître, depuis que nous sommes avec eux, 20 petits. Wow. Et nous les avons vus grandir, pas simplement grossir, mais petit à petit exprimer leur propre personnalité. Nous avons vu naître des affinités particulières, ce qui montre que les cachalots ont des personnalités propres, des singularités. S'il y a des affinités entre un cachalot et un autre, c'est bien qu'ils se choisissent. Et c'est vrai, ces personnalités sont parfois extraordinaires. Il y en a un, Elliot, le plus explorateur, qui est très curieux et qui visiblement m'aime bien, car régulièrement, il vient me voir. Et un jour, au-delà de cette curiosité naturelle que beaucoup d'animaux ont, il a insisté et il a voulu m'apprivoiser.
Oh, vous dites, il fait de l'anthropomorphisme.
Non, pas du tout. Il est venu de lui-même. C'est un animal sauvage. Et avec un animal sauvage, on ne triche pas, on ne peut rien raconter, on ne peut pas lui dire « je te donnerai si tu fais ça, on peut pas... »
Il n'y a pas de négociation possible.
Il n'y a pas de négociation. Il est venu de son propre chef, du fond de l'océan, et pendant un peu plus de 10 minutes, il est resté en adoptant toutes les positions pour m'indiquer qu'il voulait des caresses. On les étudie depuis 10 ans, on sait que quand les cachalots se mettent sur le dos, offrent leur ventre à leurs congénères, c'est un appel à la caresse. En général, ils se retrouvent et ils se caressent. Et quand en plus, ils utilisent des expressions sonores particulières comme celle-ci, et que l'autre répond, alors ils se rejoignent et ils se caressent. Eh bien, Elliot, le cachalot, non seulement m'a offert son ventre, non seulement il s'est mis à la hauteur de mon infirmité de nageur, nageant tout doucement, reculant même, m'évitant juste ce qu'il faut pour pouvoir m'enrouler, m'enrober dans des carabrioles incroyables, mais il a utilisé ses expressions sonores. Il voulait tisser des liens, il voulait m'apprivoiser.
Et ça a fonctionné, vous semblez conquis et convaincu. Donc je découvre que vous parlez le cachalot, je découvre qu'il vous apprécie aussi et que, j'imagine, vous avez dit qu'il y a des affinités entre eux, il y a sûrement des affinités aussi avec certains membres de votre équipe, peut-être plus qu'avec d'autres. En tout cas, ils doivent vous reconnaître chaque fois que vous plongez et ils se disent « Ah tiens, c'est les copains humains ».
Alors, non, c'est pas les copains humains. Ils nous reconnaissent, aucun doute, mais ils ne nous attendent pas. On peut dire que votre chien ou un cheval ou même des poules ou des moutons reconnaissent et sont heureux de voir revenir ceux avec qui ils ont l'habitude d'être. Là, il ne s'agit pas de ça. Ce sont des animaux sauvages. Oui, ils nous reconnaissent. Oui, chacun des membres de cette famille de cachalots, la leader de cette famille s'appelle Irène Gueule Tordue, parce qu'elle a la mandibule complètement tordue sur la gauche. Non seulement ils nous reconnaissent, mais ils préfèrent certains d'entre nous. Mais encore une fois, ils ne nous attendent pas. L'autre chose, je ne parle pas le cachalot. Nous avons, après de longues études scientifiques, parce que tout ce que nous faisons là contribue à un énorme travail scientifique de génétique, d'éthologie et puis surtout d'acoustique, et ce travail scientifique permet de dire que cette expression sonore, par exemple, est véritablement associé à une demande de contact physique. On a analysé 1763 de ces expressions sonores et regardé les comportements qui y sont associés, et la démonstration statistique fait que nous pouvons dire cette demande est associée à ce comportement. Donc il n'y a pas ici d'interprétation. Lorsque Elliot fait et qu'il s'adresse de façon tout à fait inattendue à un plongeur, c'est-à-dire à moi, c'est vraiment qu'il veut essayer de tisser des liens avec une autre espèce et qu'il réclame des caresses. Il n'y a pas d'interprétation non plus lorsque je dis que Elliot est bien lorsqu'il est avec moi. Parce qu'un animal sauvage qui n'est pas bien, il s'en va. Il ne va pas rester 10 minutes. Donc, à la fois, il était bien et à la fois, au-delà de la curiosité passagère normale pour tous les animaux sauvages marins qui viennent voir des humains, il est resté 10 minutes, donc ça va bien au-delà de la curiosité, bien au-delà de l'envie d'étudier cette espèce. C'est vraiment tisser des liens apprivoisés. Voilà ce qui est le plus surprenant. Nous ne sommes pas seuls au monde, nous n'avons pas le monopole de l'envie d'apprivoiser les autres.
Un spectacle comme celui d'aujourd'hui au théâtre de Privas, librement inspiré donc de votre ouvrage, qu'est-ce que ça apporte en plus à votre propos? Ça permet justement de faire entendre ces modes de communication, de mettre le public un peu plus en immersion?
C'est une autre forme de récit qui permet d'entraîner des gens que je ne touche pas avec mes publications scientifiques. Ne restons pas confinés dans notre petit monde de scientifiques. C'est la forme que Nadine, Guillaume, Guy ont donné à ce spectacle musical, en images, en récits, est merveilleuse. Elle incite à rentrer dans le monde de Irène Gueule-Tordue et des cachalots par un chemin différent. On vient de faire aussi une bande dessinée qui s'appelle « S'il te plaît, dessine-moi un cachalot » avec une dessinatrice formidable, ardéchoise et japonaise. Elle aujourd'hui est au Japon, mais elle était ardéchoise. Et qui a rendu de façon humoristique, merveilleuse, en dessin, toute cette enquête formidable et les relations que nous avons établies avec ces cachalots qui nous accueillent. « S'il te plaît, dessine-moi un cachalot », c'est une voix nouvelle aussi, c'est un nouveau récit. Il faut des formes de récit différentes pour réunir toutes sortes de personnes qui n'auraient pas été intéressées sinon. Et c'est important. Et le spectacle, le retour de Moby Dick, qui est bouleversant, pétillant de musique et d'invention et d'images, peut amener les gens à se dire « Waouh, il y a des autres à côté de nous qui sont formidables !» Alors, ça contribue à cet élan qui devrait nous amener tous à avoir de la considération pour chacun, pour chaque créature vivante. Je crois vraiment à ces nouvelles formes de récits. C'est pour ça d'ailleurs qu'encore une fois, avec Pomme Bernos, on a fait cette BD « S'il te plaît, dessine-moi un cachalot ». Voilà. Moi j'ai une petite fille qui s'appelle Ayaté, je ne veux pas avoir à lui dire « Tu sais, moi j'ai nagé avec des cachalots ou des grands requins, il n'y en a plus ». Et pire, je n'ai rien fait. Je savais ce qui se passait, mais je n'ai rien fait. Je ne veux pas avoir à dire ça. Donc, je m'engage avec mon épouse Véronique, on s'engage avec l'association Longitude 180, on s'engage au mieux de ce que nous pouvons faire pour aller vers un monde plus paisible. Tout est lié. Parfois on me dit, mais tu fais de la politique. Oui, je fais de la politique. Si, dire, il faut aller à la rencontre des autres, de ceux qui sont différents, comme je vais à la rencontre du grand requin blanc, il faut aller s'ouvrir, si ça c'est de la politique, oui je fais de la politique. Je crois que le spectacle ici est aussi politique. Il veut aussi amener chacun à réfléchir sur notre relation aux autres et à tous les autres. À tous les autres, tous les vivants.
On sent que ce rôle de conteur vous colle à la peau.
C'est pas le rôle de conteur, c'est la force du monde, c'est la force des cachalots. C'est la force des causes. Si mes parents m'avaient pu se tourner vers la montagne, je serais peut-être en train de vous parler des aigles, des bouquetins ou des chamois. C'est nous. C'est nous, le vivant.
Justement, après ce spectacle, les gens sont invités à échanger avec vous. Vous sentez que le message passe? Vous sentez qu'il y a des questionnements chez le public, que le message est reçu?
Souvent, le spectacle nous amène au début à parler cachalot. Et puis, cachalot a parlé singularité. Lorsqu'on découvre que chaque cachalot est singulier, on se dit que si on a découvert que chacun était une personnalité, avait son histoire propre, sa biographie, on l'a découvert parce qu'on avait prêté attention à eux longtemps, on peut se dire que si nous prêtions attention à tous les autres vivants longtemps, on découvrirait que tous sont singuliers. Mais si tous sont singuliers, ils sont irremplaçables. Irremplaçables. Alors tout d'un coup, notre relation aux autres et au monde est différente. Parce que je me dis, s'il est irremplaçable et que on est forcé de l'effacer, c'est pour toujours. Donc il faut y réfléchir à deux fois. C'est pour toujours. C'est une évidence.
Merci beaucoup, François Sarano.
Merci à vous.
C'était votre chronique, Les Monts de Demain.